des médias, c'est la deuxième partie sur Radio France Internationale. Nous sommes cette semaine en Turquie pour enquêter sur la liberté d'expression dans ce pays dont le Premier ministre n'a pas hésité il y a quelques jours à censurer le réseau de microblogging Twitter et le site de partage de vidéos YouTube. Avant de revenir sur la manière dont Recep Tayyip Erdogan et l'AKP, son parti au pouvoir depuis 12 ans, traitent les libertés numériques, nous continuons à rencontrer des journalistes qui ont été agressés, emprisonnés ou maltraités pour avoir exercé leur métier. Nous enquêtons dans un pays sous tension, juste après la mort le 11 mars de Berkin Elvan, un jeune garçon blessé lors des manifestations de Taksim au mois de juin 2013. Un pays qui s'apprête à voter ce dimanche pour des élections municipales, un scrutin perçu bien entendu comme un test pour le gouvernement. Depuis plusieurs semaines, des enregistrements audio apparaissent sur Internet. On découvre un Erdogan corrompu, malhonnête, usant de son pouvoir pour faire taire les médias. Ces révélations sont attribuées à la confrérie de son ancien allié et nouvel ennemi Fethullah Gülen, un homme qui, comme le gouvernement, instrumentalise la presse et les médias. La confrérie Gülen est un état dans l'état capable de faire enfermer ses ennemis, même s'ils sont des journalistes réputés.
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous
Adım Ahmet Sik, gazeteciyim. Şu anda da serbestçiyim.
Je m'appelle Ahmet Sik et actuellement je travaille en tant que journaliste indépendant. À partir de 2006, en Turquie, on a commencé à parler d'un certain nombre de procès de nature politique. Tout ceci a été présenté comme un combat contre ce qu'on appelle l'état profond en Turquie. Une expression par laquelle on désigne une sorte d'état dans l'état composé de forces antidémocratiques et de putschistes militaires. Dans la mesure où ces procès impliquaient des personnes connues pour leurs méfaits et leurs exactions passées, il n'a pas été compliqué de convaincre une partie de l'opinion publique de la légitimité de ces actions en justice. Dès 2008, toutefois, les gens ont commencé à se rendre compte que ces procès entraînaient des violations des droits des accusés, qu'en fait, on ne visait pas ces personnes pour les crimes qu'ils avaient commis, que tout ceci était un prétexte. J'ai commencé à préparer un livre sur cette injustice, sur la manière dont des forces au sein de l'État réussissaient à manipuler ces procès. Je pense essentiellement à la célèbre confrérie de Fethullah Gülen. Et donc, en menant mon enquête, j'ai pu constater que l'objectif n'était pas d'anéantir des groupes menaçant la démocratie, mais de remplacer ces groupes par d'autres ayant simplement des idées différentes. Dans mon livre, je voulais parler de la mainmise sur la police et la justice de cadres appartenant à la mouvance de Fethullah Gülen. Ces procès en étaient une parfaite illustration. Mais avant de le terminer, j'ai eu une autre illustration de leur pouvoir. J'ai été arrêté. Ensuite, comme vous le savez, j'ai été emprisonné.
En fait, vous faites référence là au procès au pluriel qu'on a appelé dans Ergenekon et à toute une série d'autres accusations satellites dont vous-même vous avez fait les frais, c'est ça ?
On peut appeler Ergenekon un seul procès, mais je préfère parler d'un processus qui implique 21 différents procès, dont le procès Ergenekon, mais aussi le procès Balyoz contre les militaires, le procès KCK contre les Kurdes, le procès Quartier révolutionnaire contre la gauche, le procès pour tricherie contre le club de Fenerbahçe et plusieurs autres procès. Tout ça représente pour moi le processus Ergenekon. J'étais donc en train d'enquêter sur l'influence de la confrérie Gülen. Bien sûr, j'étais en contact avec des sources d'information qui étaient dans la ligne de mire de cette confrérie. Et donc, on a aussi fait de moi une cible. Ce cercle, au fur et à mesure, s'est rétréci. Et un beau matin du 3 mars 2011, on a frappé à ma porte et on m'a interpellé. Il y a eu une perquisition qui a duré des heures, une garde à vue et finalement une incarcération 3 jours après l'interpellation. J'avais deviné que j'étais visé et donc je n'étais pas très choqué.
Donc en mars 2011, vous êtes arrêté, après 3 jours vous êtes incarcéré. Vous allez rester combien de temps en prison à ce moment-là ?
La période d'emprisonnement a duré 13 mois. Lorsque j'étais emprisonné, 2 jours après, mon frère, ma femme sont venus me rendre visite. Je leur ai dit « Préparez-vous, ça va durer au moins 9 mois ». Je pouvais évaluer la durée grâce aux dossiers sur lesquels j'avais enquêté. Ça a duré un petit peu plus.
qu'est-ce qu'on vous reprochait exactement? Qu'est-ce que c'était l'accusation exactement?
Terroriste olmak.
Être un terroriste. C'était écrit comme ça, j'étais un terroriste. Une accusation bizarre du genre « aide à une organisation terroriste ayant pour mission de créer un climat de coup d'État et de renverser un gouvernement légitime ». On m'accusait donc de faire de la propagande contre le gouvernement par le biais d'un projet de livre qui n'avait encore aucun lecteur. Ça n'avait aucun sens.
Qu'est-ce que c'était l'intention des personnes qui vous ont fait arrêter, qui se sont servies de l'appareil judiciaire et pour vous mettre en prison? Qu'est-ce que c'était leurs intentions?
L'intention de la justice était de n'autoriser aucun article, aucune couverture sur les irrégularités produites lors des procès Ergenekon. Tous ceux qui se sont opposés à ces irrégularités, qui ont tenté de les dénoncer, se sont vus transformés en accusés. En plus de ma personne, ça a été le cas pour de nombreux journalistes, de nombreux avocats, notamment un procureur qui s'appelait Ilhan Caner.
Et l'objectif, c'était de vous empêcher, en gros, de publier votre enquête?
Bien sûr. Comment peut-on expliquer qu'un livre au stade de projet, qui n'existe pas encore donc, fasse déjà l'objet de pression? Ils voulaient à tout prix éviter que ce livre ne paraisse.
Et pour continuer, ils n'ont pas réussi à vous empêcher de publier le livre?
Imaginez qu'à l'époque du nazisme, on brûlait les livres, mais on ne pouvait pas empêcher les gens de penser. On est en train de faire face à quelque chose de semblable. À l'ère des nouvelles technologies, il n'est pas possible d'empêcher les gens de publier ce qu'ils veulent, d'autant plus que j'étais entouré de confrères extrêmement courageux. Par conséquent, mon livre a bien vu le jour. La justice a publié une décision de saisie du projet de livre et des documents qui allaient être publiés. Elle a menacé les gens en possession de copies en disant qu'ils allaient eux aussi être considérés comme des terroristes. Eh bien, 125 personnes, des confrères journalistes surtout, ont co-signé mon livre et l'ont publié bien qu'inachevé. Ils ont réussi à le diffuser, je les en remercie.
Comment vous avez perçu le fait que des médias en Turquie, des médias proches du gouvernement ou proches de la confrérie Gülen, ont appuyé cette thèse qui disait que vous étiez un terroriste et non pas un journaliste d'investigation? Comment vous avez vécu ça?
Cela démontre que bien que nous pratiquions dans le même secteur d'activité, certains peuvent être appelés journalistes et d'autres simples employés de médias. Je ne pense pas que l'on doit être dépourvu d'engagement politique lorsqu'on fait du journalisme. Mon travail, par exemple, est centré sur le respect des droits de l'homme. En revanche, on n'a pas le droit de bafouer les principes de base de notre métier. Le journalisme est un métier public, et lorsque vous parlez de la sphère publique, vous êtes inévitablement confronté à diverses opinions dans la société. Dès lors que des journalistes cherchent à déformer des faits objectifs, je ne les considère plus comme des journalistes. Je suis journaliste depuis les années 90. Jusqu'à maintenant, je ne me suis fié qu'à la réalité. Je n'ai jamais été adossé à un quelconque pouvoir. Les employés de médias, de Gülen et du pouvoir qui ont diffusé des mensonges à mon encontre sont au service de ces intérêts particuliers. À mes yeux, ce qu'ils ont fait est indéfendable. Je sais que je fais bien mon travail quand je dérange les pouvoirs politiques, financiers et sociaux. Mon rôle est de déranger. Je ne me nourris que de la confiance des gens et du mérite qu'on m'accorde. Dans les années 90 aussi, on m'accusait d'être un terroriste. Aujourd'hui encore, je suis sur le banc des accusés. Mais ceux qui sont assis à côté de moi sont ceux qui m'attaquaient il y a 20 ans. Je suis donc honoré d'être accusé de terrorisme par des gens qui méprisent le droit et la justice.
Donc vous êtes sorti de prison 13 mois après avoir été incarcéré, donc courant 2012. Je sais que vous avez essayé de couvrir les événements de Gezi. Comment ça s'est passé, votre couverture des événements de Gezi?
Pour les reporters, c'était compliqué à couvrir. On pouvait se trouver dans la ligne de mire des manifestants et de la police en même temps. Les journalistes étaient susceptibles d'être ciblés par les manifestants, car ils sont considérés comme les représentants de l'establishment et comme faisant partie d'un réseau de pouvoir. Par ailleurs, on pouvait être attaqué par les forces de l'ordre dans la mesure où nous sommes ceux qui documentent les agressions commises par la police contre les manifestants. Pour ma part, je n'ai jamais eu à craindre la violence des manifestants du fait de mon passé qui dit bien qui je suis. mais j'ai toujours eu à craindre les attaques des forces de l'ordre. Dès le premier jour des manifestations, j'ai été blessé à la tête. C'était le matin du 31 mai. Des gens commençaient à manifester contre une première intervention de la police dans le parc de Gezi. J'étais en train de couvrir cette intervention. À ce moment-là, une délégation des députés du Parti républicain, le CHP, a commencé à franchir la zone pour entrer dans le parc. La police est intervenue avec des canons à eau et des grenades lacrymogènes. J'en ai reçu une en pleine tête. J'ai dû passer la nuit à l'hôpital. J'étais énervé parce que, dehors, des événements historiques se déroulaient et je n'étais pas en mesure de les couvrir. Deux jours plus tard, j'ai pu recommencer à couvrir. Et cela pendant 40 jours, ces événements qui, selon moi, redonnaient de l'espoir quant à l'avenir de la Turquie. En tant que journaliste, c'était très important d'être le témoin de cette révolte et de pouvoir relater ce qui se passait. Bien sûr, ça impliquait d'être exposé à des violences. 10 jours plus tard, j'ai fait l'objet d'une seconde agression. J'ai à nouveau reçu une grenade lacrymogène tirée à bout portant. Heureusement, j'avais un casque qui me protégeait la tête. Si je n'avais pas porté ce casque, je ne serais probablement pas avec vous aujourd'hui pour répondre à vos questions. Malheureusement, être la cible de tirs à balles en caoutchouc, d'être interpellé, d'être frappé, ça fait partie du quotidien d'un journaliste turc.
Est-ce que vous êtes confiant malgré tout pour l'avenir de la liberté de la presse en Turquie ?
Très brièvement, non. Dans la mesure où le débat ne se situe pas au niveau du droit et des libertés fondamentales. Je m'attends à une crise profonde du fait que la liberté de la presse et d'autres droits fondamentaux n'ont pas leur place dans toute la vie politique au quotidien. Ce serait faux de dire que la situation de la liberté de la presse n'a été problématique que sous le gouvernement de l'AKP. La presse est dans cette situation depuis 200 ans. D'une manière ou d'une autre, l'état de la liberté de la presse a toujours été problématique. À l'heure actuelle, on parle de 60 journalistes emprisonnés. C'était déjà le cas sous les gouvernements précédents. Mais comme il s'agit essentiellement de journalistes kurdes et socialistes, personne ne parlait d'eux.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr
Kimin umrunda verdiğin sözler, yeminler etsen de, tövbe etsen, kime kaç yazar?
Ici, on est pas loin de la place de Galatasaray et on se dirige vers Çukurcuma, le quartier de Çukurcuma où se trouve le quotidien Özgür Gündem. On va rencontrer un membre de la rédaction de ce journal qui a pas mal été persécuté ces dernières années.
Donc là, on est sur la rue Esteklal et on se dirige vers la place Taksim. Hein.
C'est bien ça. Donc pour le moment, ça semble calme. C'est là où... Le week-end, du samedi matin jusqu'au dimanche soir, il y a pas mal de cortèges qui défilent. Et c'est là où vraiment les gens, les milieux politiques de toute tendance protestent, célèbrent, commémorent. Voilà, on entend des jeunes qui lancent des slogans. Donc, ils sont en train de rendre hommage à cet adolescent qui avait été grièvement blessé lors des manifestations Gezi, qui traversait la rue pour aller à la boulangerie et qui avait été atteint d'une capsule, d'une grenade de gaz lacrymogène. Le jeune s'appelait Eberkin Elvan. On va voir Bayram Balcı, donc qui est membre de la rédaction de ce journal pro-kurde. C'est un quotidien qui est publié en turc, mais il existe aussi un quotidien qui est publié essentiellement en kurde, qui s'appelle Azadia Welat. On va y aller. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba, Bayram Balcı ile görüştünüz.
Hoş geldiniz.
Fransız gazeteci arkadaşlar.
Bayram Balcı.
Aşağı yukarı 21 yıldır profesyonel gazetecilik yapıyorum.
Je m'appelle Bayram Balcı. Ça fait 21 ans que je suis journaliste. J'ai commencé mon métier dans la ville de Mersin à partir de 91. J'ai continué à Diyarbakır, Urfa, Mardin et différentes villes du Kurdistan. Et depuis 96, j'exerce à Istanbul.
Et vous avez toujours travaillé pour le même journal qui est Özgür Gündem?
91 yılından beri Özgür Gündem'de çalışıyorum. Özgür Gündem.
Oui, depuis 91, je travaille pour Özgür Gündem, même si ce journal a été obligé de changer de nom plusieurs fois, tout en gardant sa ligne éditoriale.
Il a changé de nom plusieurs fois.
Ben bile hatırlamıyorum.
Oui, c'est un journal qui a dû changer de nom une centaine de fois à cause des pressions judiciaires et des menaces d'interdiction. La presse en Turquie n'a jamais été libre. Les pressions exercées par le Premier ministre sur les patrons des médias, révélées récemment par des enregistrements, résument la situation de la presse. Et à partir des années 1990, lorsque les rebelles du Parti des Travailleurs du Kurdistan, le PKK, affrontaient les forces armées turques, la presse kurde a payé un prix qu'aucune autre presse dans le monde n'a payé. Durant cette période, il y a eu 17 000 exécutions extrajudiciaires, 3 000 villages vidés par l'armée. Les grands médias turcs n'ont jamais parlé de cette situation, seule la presse kurde l'a fait. Quand nous parlions de ces événements, l'État, par l'intermédiaire de sa milice, de la JITEM, le service de renseignement de la gendarmerie et de la contre-guérilla, vient s'attaquer aux journalistes. Au lancement d'Özgür Gündem en avril 91, dès sa première semaine, une reporter a été assassinée en pleine rue. Les assassinats se sont multipliés dans les régions de Ceylanpınar, Mardin, Diyarbakır et Bitlis. On a perdu plusieurs journalistes dans ces régions-là. Le gouvernement ne voulait pas que ces crimes contre l'humanité commis dans cette région soient révélés par les médias. La vente de notre journal a été interdite dans cette région, placée en état d'urgence. Le journal a été attaqué économiquement par des amendes astronomiques. Ils ont voulu nous réduire au silence.
Ça, c'était donc il y a maintenant une vingtaine d'années. Il s'est passé beaucoup de choses en Turquie. On peut considérer, en tout cas, a priori, la démocratie, c'est plus ou moins installé, il n'y a plus de coup d'État depuis un certain nombre d'années, il y a eu des élections libres, etc. Comment la situation a évolué pour un journal comme le vôtre et pour un journaliste comme vous ?
Quand je vous parle de mes 76 collègues et distributeurs assassinés, il y avait déjà un système parlementaire en Turquie à ce moment-là. Ce n'était pas une période de coup d'État. En 1994, ils ont même fait exploser le siège du journal à Istanbul. On a perdu l'un de nos journalistes lors de cet attentat. En 2011, on a repris le nom d'Özgür Gündem, qui datait de 1991, et quelques mois plus tard, 44 de nos collaborateurs ont été arrêtés lors d'une vaste opération policière. 20 ont été emprisonnés. C'était une opération pour nous empêcher de faire notre travail. Dans les années 90, ils essayaient d'arrêter notre travail en nous tuant. Là, c'était en nous arrêtant.
Et donc, du point de vue de la liberté, des pressions, de ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire, qu'est-ce que c'est la situation aujourd'hui ?
Dans la loi, le seul fait de publier une photo du leader du PKK, Abdullah Öcalan, c'est un délit, c'est interdit. Pourtant, l'État négocie avec lui, le mouvement politique kurde est reconnu par le gouvernement. Il est difficile de parler de liberté de la presse tant que la loi antiterroriste reste en vigueur. Si l'on s'en tient à la loi, les responsables d'État qui négocient avec Öcalan, le Premier ministre qui parle de Öcalan, les journalistes qui écrivent sur Öcalan, eux aussi sont en train de la violer, la loi. Le gouvernement est en train de négocier avec les responsables du KCK, Cemil Bayök, Murat Karayelan. Mais par contre, nos confrères sont en prison car ils sont accusés d'appartenir aux médias liés au KCK. Vous voyez la contradiction.
Est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir de la liberté d'expression et l'avenir de la liberté de la presse en Turquie ?
En Turquie, la démocratisation du pays est étroitement liée à la question kurde, au fait que la question kurde soit réglée. Mais je tiens à signaler que dans les années 90, il n'y avait qu'un seul journal kurde, Özgür Gündem. Maintenant, on a 2-3 quotidiens, 3-4 chaînes de télévision, 5-6 radios. Les médias kurdes se sont développés.
Est-ce que ça, c'est le signe quand même d'une amélioration de la condition des journaux, des journalistes kurdes ces dernières années, le fait qu'il y ait autant de médias ?
La multiplication des médias kurdes n'a pas forcément de rapport avec les avancées démocratiques en Turquie. C'est une question d'équilibre. On ne sait pas si les récentes négociations pour la paix vont changer quelque chose. Sur la base des lois existantes, les procureurs, l'État peuvent suspendre à tout moment notre journal. Ils ont la base légale pour ça. Ils savent très bien que le lendemain, on sera en mesure de recréer un journal de toute façon, mais ce qu'il est important de dire, c'est qu'il n'y a pas de garantie légale pour la presse en Turquie. Tant que la profession n'a pas de protection législative, il n'y aura pas d'avancée réelle.
Erol, je rappelle que tu es le correspondant de Reporters sans frontières ici en Turquie. Le tableau est très très sombre. D'ailleurs, c'est pour cette raison que la Turquie est considérée par les organisations de défense de la liberté d'expression et des journalistes comme un très 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 mauvais élève. Elle est classée 154 sur 180 par Reporters sans frontières. Pour le comité pour la protection des journalistes, le CPJ, qui est basé aux États-Unis, la Turquie serait le pays où il y a le plus de journalistes emprisonnés dans le monde, devant la Chine. Un des saluts possibles de cette situation pour la liberté d'expression, c'est l'Internet, avec la liberté qu'il offre aux utilisateurs de s'exprimer, l'utilisation des réseaux sociaux, etc. Et là encore, il semble que le tableau, d'abord, soit déjà très noir et risque de se noircir. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu, d'abord, quelle est la situation et comment ça pourrait empirer ?
Sur l'Internet, on avait déjà une loi de l'Internet, déjà une loi liberticide qui permettait aux magistrats de suspendre tout un site Internet en raison d'un seul contenu, peut-être d'une page, peut-être d'une ligne. On a entendu parler en 2008-2009, YouTube censuré pendant 2 ans et demi en Turquie, des supports Internet. On ne peut plus réputer et généraliste au monde, suspendu dans tout le territoire turc parce qu'un procureur, un tribunal régional à Istanbul, à Ankara, à Izmir ou ailleurs a décidé de censurer. On avait une loi déjà discutable, oui, mais le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan voit dans l'Internet un outil qui nuit à sa réputation, où on est toujours en train de fomenter des complots pour déstabiliser son gouvernement.
Bonjour, je m'appelle Ali Reza Kedesh. Je suis président de l'Association pour une informatique alternative et je suis aussi développeur web.
Est-ce que vous pouvez me décrire la situation de la liberté sur Internet en Turquie aujourd'hui ?
The Turkish people use Facebook, Twitter and other social media.
Le peuple turc utilise Facebook, Twitter et d'autres médias sociaux pour s'exprimer. Ils s'en servent massivement. Les gens écrivent ce que les grands médias n'écrivent pas, ce qu'ils cachent à la population, comme par exemple ce qui se passe dans les rues. Vous vous souvenez qu'il y a presque un an, les rues turques étaient pleines de monde, très tendues. Et c'est sur Twitter ou Facebook qu'on pouvait suivre ce qui se passait. Pour nous, Internet est la principale source d'information. Donc c'est essentiel pour la population turque. Mais comme vous le savez, l'État tente de le contrôler, de le censurer. Il y a 7 ans, le gouvernement a fait voter une loi sur l'Internet qui lui permettait de bloquer des sites par décision de justice et via la haute instance des télécommunications. Ils peuvent censurer des sites selon 6 ou 9 critères, comme contenu pornographique, drogue, etc. Il n'y a pas de liste des sites bloqués, mais nous estimons qu'il y en a 40 000 en Turquie, même peut-être plus que 40 000. Mais en février dernier, cela n'a pas suffi pour tout contrôler, donc ils ont changé la loi pour pouvoir bloquer des sites plus facilement encore. Nous pensons par conséquent que ce chiffre, 40 000, va croître rapidement, encore et encore. Le problème, c'est qu'ils ont besoin d'une infrastructure technique particulière pour pouvoir faire cela. Ils emploient des outils logiciels et du matériel qui permet d'analyser en profondeur les contenus diffusés sur le réseau. Là encore, c'est un problème important, parce qu'il s'agit de surveillance de masse. Pour protéger les secrets de quelques politiciens, ils violent la vie privée de tout le pays. Il faut aussi savoir que la nouvelle législation interdit les techniques de contournement de la censure. Les fournisseurs d'accès Internet sont désormais tenus de combattre ces techniques.
Comment est-ce que vous comprenez cette censure et cette politique vis-à-vis de l'Internet de la part du gouvernement turc? Comment vous l'analysez?
Le gouvernement et le parti au pouvoir sont en panique. Ils ne réfléchissent pas de manière cohérente. Ils n'arrivent pas à prendre en compte les conséquences de leurs actes. Ces lois, ces agissements, desservent les intérêts de la Turquie, ainsi que leurs propres intérêts. Mais cela ne les arrête pas. Ils sont convaincus qu'ils doivent agir de la sorte.
RFII. Turquie, la liberté d'expression en danger, c'était un reportage signé Simon Decreuse pour la réalisation et l'Atelier des médias, toute l'équipe pour sa production. Vous trouverez bien entendu la version longue de ce sujet ainsi qu'un billet pour aller plus loin sur le site de l'Atelier des médias.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 329 de l'Atelier des médias, proposée par Manon Mella, Raphaël Constant, Dilet Sadawi, Ismaël Alissat, Simon Decreuse et Ziane Malouf. Merci à Reporters sans frontières pour son appui. Merci également à Jérôme Bastion, notre correspondant à Istanbul. N'hésitez pas à nous suivre, nous lire, nous contacter sur Twitter, Facebook, atelier.rfi.fr, mondoblog.org et libiablog.org. Salut à toutes et à tous, à la semaine prochaine.
Sen olasın ürgü, dumanım tütmez. Sen olasın ürgü, dumanım tütmez. Fırat'ıma acemi konar.